poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, l'annonce ou le rappel du décès de François Rochat, qui est à l'origine de Radio Alliance Plus, un bref compte-rendu de la journée de présentation du Petit Temple restauré, ici à Nîmes, le 7 février dernier. Ce sont ensuite quelques rendez-vous à la Maison du protestantisme. Après cela, nous revenons sur une proposition de la Fédération protestante de France relative aux personnes transgenres. L'émission se poursuit avec la présentation de deux articles parus dans le mensuel régional Le CEP, le premier sur la catéchèse, le second sur le centre des Abeillères, près de Saint-Jean-du-Gard. Aujourd'hui, je commence cette émission par le rappel d'une triste nouvelle, celle du décès du père fondateur de Radio Alliance Plus. Il s'agit du pasteur François Rochat, dont les obsèques ont eu lieu ici à Nîmes le 4 février dernier. Au cours du culte d'action de grâce qui a été célébré à cette occasion au temple du Mas des Abeilles, un bel hommage lui a été rendu par le président actuel, le pasteur Redouane Esbanti. François Rochat a en effet été le père fondateur de notre radio. En l'an 2000, il a eu l'idée de mettre sur pied une association, Radio Présence Nîmoise, pour lancer une nouvelle radio à Nîmes, une radio associative locale de proximité, non commerciale, de culture protestante. Et cette radio, c'est notre radio Alliance Plus. Mais François Rochat ne s'est pas arrêté là. Il a été l'animateur lui-même de nombreuses émissions qui touchaient des domaines très variés, de la théologie à la santé, en passant par la vie associative ou la psychologie. Depuis quelques années, il avait arrêté de produire des émissions. Le carré protestant. L'événement avait été annoncé largement. Nous-mêmes l'avions annoncé la semaine dernière dans cette émission. Cet événement, c'était le samedi 7 février dernier, la présentation officielle du Petit Temple entièrement et magnifiquement restauré. Cette présentation du Petit Temple restauré faisait partie d'une journée consacrée à une réflexion collective sur ce que pourra être le carré protestant qui rassemblera à l'avenir la Maison du protestantisme de Nîmes et le Petit Temple. Plus d'une centaine de personnes, membres des diverses paroisses de l'Église protestante unie de Nîmes, ont donc, après la visite du Petit Temple, rejoint la Maison du protestantisme et, par groupe de 7 à 10 personnes, ont travaillé pendant près de 2 heures sur ce qu'ils ou elles souhaiteraient que soit ou que devienne ce carré protestant. Un buffet, puis un moment de restitution en séance plénière, a clôturé cette belle rencontre. Maison du protestantisme. Je vous rappelle que à Nîmes, la Maison du protestantisme vous accueille le matin du mardi au vendredi, de 9h30 à midi, et l'après-midi du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et le samedi de 10h à midi. Voici aussi ses coordonnées. La Maison du protestantisme est située à 2 pas du Carré d'Art. Son numéro de téléphone est le suivant, 04 66 67 97 40. Son adresse mail, mdp.nîmes, www.free.fr. La Maison du protestantisme propose à toutes et tous, sans inscription préalable, tous les jeudis, hors vacances scolaires, un repas moyennant une petite participation financière. Le prochain repas aura lieu ce jeudi 12 février à 12h15. Vous pouvez trouver à la Maison du protestantisme une bibliothèque qui est ouverte le vendredi de 14h à 16h. Une exposition est actuellement présentée dans le hall d'entrée. Il s'agit de l'exposition de Véronique Duira, intitulée « Éclat de couleurs ». Cette exposition se termine le 10 février. Trois groupes se réuniront prochainement à la Maison du protestantisme. Tout d'abord, l'atelier Théophilo. Il se réunira le lundi 16 février à 18h30. Le sujet sera défini en groupe. Et puis le groupe Évangile et Liberté se réunira, lui, le mardi 17 février à 17h30 sur le thème « Ce que je préfère garder et conserver dans le christianisme ». Le groupe Les Embruns se réunira quant à lui le jeudi 19 février à 15h. Ce groupe propose des sujets de discussion choisis par ses adhérents. La sixième séance aura pour thème « La sophrologie et les techniques de relaxation ». Fédération protestante de France. Temps fort de rencontres, de débats et de décisions, l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France, qui s'est déroulée les 30 et 31 janvier au Palais de la Femme à Paris, a marqué une étape importante de la vie fédérative. À travers le vote de nouveaux statuts, les évolutions de gouvernance, l'accueil de nouvelles églises et les réflexions éthiques, s'est dessiné le visage d'une fédération vivante, plurielle et en mouvement. Au cours de cette rencontre, le président de la Fédération protestante de France, le pasteur Christian Krieger, a dressé le portrait d'une fédération à la croisée des chemins, fidèle à ses 120 ans d'histoire, mais attentive aux mutations profondes du protestantisme français. Il a également présenté deux chantiers structurants pour l'année à venir. Tout d'abord, l'élaboration d'une contribution protestante aux élections présidentielles de 2027, et aussi la poursuite du travail sur l'organisation territoriale de la Fédération afin de porter une parole commune, responsable et fidèle à l'esprit fédératif. Le pasteur Krieger a notamment annoncé la publication par la Commission Éthique et Société, la publication d'un texte sur les personnes transgenres, témoignage que la Fédération, son éthique de l'écoute et du dialogue, sait produire une parole commune, même sur un sujet des plus clivants. L'accompagnement de la réception de ce travail sur la transidentité dans une démarche d'écoute et de discernement théologique marquera cette année. Commission éthique et société de la Fédération protestante de France. Comment accueillir et accompagner les personnes transgenres dans nos églises? C'est à cette question que répond le texte de la Commission éthique et société de la Fédération protestante de France sur les personnes transgenres, rendu public ce vendredi 30 janvier dernier, lors de l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France. Non prescriptif, ce document de travail réfléchit à la transidentité à la lumière de la science, de la médecine, de la théologie et de la Bible pour soutenir les églises et communautés dans leur accompagnement pastoral. Fruit de 30 mois de réflexion collective, il témoigne, selon le président de la Fédération protestante de France, que la Fédération, par son éthique de l'écoute et du dialogue, est capable de produire une parole commune, même sur un sujet des plus clivants. Dans son numéro 4123 du 5 février, l'hebdomadaire Réforme consacre une double page à cette question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes transgenres. Alice Papin conclut ainsi son article. Si certains jugeront ce document comme trop conservateur, il constitue pour de nombreux évangéliques une avancée dans l'accueil des personnes transgenres. À l'automne 2026, un temps d'échange autour de ce document est prévu afin de partager questions, réactions et approfondissements. En revanche, dans l'édition internet de l'hebdomadaire Réforme, un article est ainsi intitulé « Transidentité, deux associations chrétiennes critiquent le texte de la Fédération protestante de France ». À la lecture du document sur la transidentité de la Fédération protestante de France, des personnes transengagées dans des groupes chrétiens LGBTQIA+, disent avoir ressenti une véritable violence. La déception est à la hauteur des attentes. L'antenne inclusive de Strasbourg, groupe paroissial engagé dans l'accompagnement des personnes LGBTQIA+, sur leur chemin de foi et pourtant membre de la Fédération protestante de France, tout comme DNJ Arc-en-Ciel, ex-David et Jonathan, association chrétienne œcuménique LGBTQIA+, regrette d'emblée que les premières personnes concernées, ainsi que les structures qui réfléchissent depuis longtemps à ces questions, n'aient pas été associées à l'élaboration du document de réflexion et recommandation. Les personnes transgenres de la Fédération protestante de France. Ce manque a, selon deux organisations, plusieurs conséquences. Il y a dans ce texte une incompréhension profonde de ce qu'est la transidentité. Cela se voit notamment dans le vocabulaire employé qui n'est pas du tout adapté, déplore Eden Dietrich, chapeautant l'antenne inclusive. Journée internationale de la fraternité. De la parole aux actes. En 2020, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a instauré la Journée internationale de la fraternité humaine, célébrée chaque année le 4 février, afin de promouvoir le dialogue entre les religions et les cultures et de renforcer la paix et la stabilité sociale. En cette période de tensions profondes, géopolitiques, sociales, démocratiques, qui fragilisent notre manière de vivre ensemble, la fraternité, troisième pilier de notre devise républicaine, est souvent mise à mal. Dans ce contexte, les responsables religieux ont proposé au président de la République l'instauration d'une journée de la fraternité en France, convaincus que la fraternité tient par des engagements concrets, portés localement avec constance et retenue, comme l'a souligné Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, lors de ses vœux pour 2026. Je ne crois pas vous avoir encore parlé du numéro de janvier-février du mensuel LECEP, le CEP mensuel régional pour la région Cévennes-Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie de France. C'est en effet un numéro double qui est paru début janvier, avec comme de coutume deux cahiers. Le premier plus général, le second donnant la parole à chaque paroisse de la région pour lui permettre de donner des informations spécifiques sur la vie de chacune de ces églises, de la plus petite à la plus nombreuse. Donc ce numéro janvier-février 2026 nous propose un dossier sur le thème « Catéchèse, nourrir l'espérance ». En voici le préambule. L'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle à partager avec joie, pertinence et impertinence, générosité et bienveillance. Souvenons-nous, sans délai, les réformateurs ont reconstitué le catéchuménat en créant des catéchismes pour inscrire le croyant dans une vraie communauté confessante. Cette préoccupation a largement évolué, mais ne nous a pas quittés. Certes, il n'existe pas de synthèse théologique éternelle ni de pédagogie définitive, il faut toujours s'interroger. Où en sommes-nous aujourd'hui ? De nouvelles initiatives catéchétiques se font jour dans l'Église protestante unie de France. On lira donc avec intérêt les 5 articles de ce dossier paru dans le numéro 701 de janvier-février 2026 du mensuel Le CEP. Toujours dans ce numéro du mensuel Le CEP, à la rubrique Actualité, figure une information sur les abeillères. Voici comment le comité de pilotage introduit cet article. Les abeillères, une église protestante au cœur du vivant, en résonance avec le monde. Nous sommes église. Rassemblés, nous témoignons de l'Évangile dans une expérience de foi en mouvement. Nous sommes protestants. Enracinés dans la tradition luthéro-réformée, nous portons une identité claire et ouverte. Nous sommes au cœur du vivant. Ce lieu des abeillères est un Éden Cévenol qui offre paix, force et renouvellement. Nous voulons être en résonance avec le monde, attentifs aux besoins d'aujourd'hui et désireux d'y répondre. Nous faisons deux constats, écrivent les auteurs, celui de l'évolution de la pratique du christianisme. Après des siècles d'essor, nous vivons aujourd'hui un temps de sécularisation. Les centres d'intérêt sont recherchés en dehors de la vie paroissiale. L'Église cherche de nouvelles formes de présence et de témoignage. Nous faisons aussi le constat de nos vies modernes. Nous observons perte de sens, fatigue généralisée, rupture du lien social. Nous rencontrons stress, isolement, désorientation. Nous ressentons la déconnexion à la nature, la disparition des temps choisis, les manques réguliers de souffle. Les abeillères se veulent une oasis d'ouverture, un lieu de vie inspiré par nos convictions protestantes. La foi et la vie s'y rejoignent dans la simplicité de la rencontre. Pour la première fois dans ce lieu, c'est l'Église protestante unie par l'Église locale de Saint-Jean-du-Gard, soutenue par l'ensemble des vallées Cévenoles, qui porte ce projet et lui donne cette identité claire. Avec cette visibilité naturelle, ce rayonnement durable et cette résonance spirituelle, nous réaliserons un témoignage actuel et perpétuel de notre foi qui se propagera bien au-delà de nos murs. Après 2 ans et demi et 20 000 heures de travail bénévole, après avoir accueilli plusieurs centaines de personnes venues découvrir le lieu et le projet, nous sommes prêts à déposer le dossier pour obtenir les soutiens nécessaires. Tout ce que nous avons vécu et observé confirme la justesse, la nécessité et l'utilité de ce projet pour notre Église et pour la société. Appelée à vivre sa responsabilité, l'Église de Saint-Jean-du-Gard a initié le mouvement et jusqu'ici soutenu financièrement les abeillères. Nous avons révélé que ce projet dépasse par son envergure la sphère locale. Il s'agit d'un projet de rayonnement national. Nous cherchons un second souffle en relais pour celui-ci et lançons ici une campagne nationale d'adhésion et de soutien au projet Les Abeillères. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.